Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal de 6 heures, présenté par Grace Hamzati Massanti.
À la une de l'actualité, lancement officiel ce jeudi à Kinshasa par la première ministre congolaise de la formalisation de l'adhésion de la RDC à l'Organisation internationale d'observation de la Terre et la mise en place des GORDC. L'objectif de ces projets est de révolutionner la gouvernance des ressources naturelles à travers des outils numériques modernes et fiables pour le développement. En Ituri, au moins 5 enfants recrutés par jour par les groupes armés de Kabido et UPLC de Mayani dans les territoires de Mambasa. C'est ce que dénonce la société civile locale qui alerte les autorités sur cette situation. Des précisions dans ce journal. Notre invité est Jean Deduembei Bosimi, le coordonnateur du programme national de développement agricole appuyé par la Banque mondiale. Ce projet de 300 millions de dollars a mis en place le registre national des agriculteurs et l'opérationnalisation d'un système d'assurance agricole face aux risques récurrents. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord cette information. Au moins 784 présumés bandits urbains, communément appelés Kuluna, sont tombés en l'espace de 2 jours dans le filet de la police nationale dans le cadre de l'opération Ndobo, ici à Kinshasa. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a livré ses chiffres hier jeudi au cours du briefing de presse qu'il a co-animé avec son collègue de la communication et médias. Il assure que ces jeunes délinquants sont en train d'être déférés devant leur juge naturel pour qu'ils répondent de leurs actes. Les propos de Jacquemain Shabani recueillis par Blaise Nongala Mayanda.
Aujourd'hui, en termes de bilan pour l'opération Ndobo qui a été sur terrain la nuit du 6 au 7 avec des actions menées sur toute la ville de Kinshasa dans différentes communes, je crois qu'il y a eu 7 communes en action, si je ne me trompe pas. Nous avons 784 personnes qui ont été prises dans le filet, qui sont en cours de procédure à être déférés devant leur juge naturel. Nous avons un pouvoir judiciaire qui fonctionne selon les textes, selon les lois de la République. Les peines sont prononcées parce qu'elles se retrouvent dans un texte. Il n'y a pas de peine sans loi. Nous sommes un état de droit. C'est des personnes, pour la plupart, qui sont dans le fichier criminel de la police nationale congolaise. Il faut laisser maintenant à ce pouvoir, qui est un pouvoir indépendant, le pouvoir judiciaire, il faut lui donner le temps de faire son travail et de donner à chacun d'entre eux, selon ce qui lui est reproché, qui lui concerne. Parce que les audiences n'ont pas encore eu lieu, on les organise et elles sont publiques. Nous avons sollicité pour des raisons pédagogiques même que certaines soient diffusées en direct.
À travers cette opération de traque, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, exprime la volonté du gouvernement de proposer des solutions durables en faveur de la population. Nous le disions dans les titres, la RDC a désormais un outil clé pour une gestion moderne et transparente du territoire congolais. La première ministre a procédé ce jeudi ici à Kinshasa au lancement officiel de la formalisation de l'adhésion au Géoportail, l'Organisation internationale d'observation de la Terre et la mise en place des GORDC. Ces projets visionnaires, selon Judith Soumino-Atuluka, marquent une avancée majeure dans l'utilisation des technologies géospatiales pour la gestion durable du territoire. Porté par le ministère de l'Aménagement du territoire, ces projets ambitionnent de révolutionner la gouvernance des ressources naturelles grâce à des outils numériques modernes et fiables par la collecte, l'analyse et le partage des données essentielles au développement et à la planification. N'est-ce pas, Jean-Désiré Kanyama?
Pour la première ministre, ce projet est une priorité accordée par le chef de l'État au développement durable en faveur de la prospérité et de l'avenir des Congolais. Judith Soumino-Atuluka.
Aménager notre territoire de manière durable, en harmonie avec la nature et les besoins des communautés. Ce projet ambitieux contribuera à la construction d'une République démocratique du Congo plus résiliente, plus prospère et plus durable.
Aussi, une réponse aux défis liés à l'aménagement du territoire, reconnaît le ministre d'État Guy Luandomboyo.
C'est la problématique d'abord de la mise en œuvre de tous les outils de planification. Vous savez, l'aménagement dans le processus de la réforme, nous sommes appelés à doter les pays de ce qu'on appelle les schémas nationaux d'aménagement du territoire. Ce schéma, c'est un master plan pour l'orientation des personnes, des activités sur l'ensemble du territoire.
Le conseiller focal GOPI explique les opportunités pour la RDC.
Le Congo gagne en termes d'accès à des informations qui jusque-là coûtaient extrêmement cher. Pour les avoir, les données géospatiales, nous pourrons, grâce à ce système qui sera mis en place, avoir accès à des données de façon gratuite.
La RDC a adhéré au GEO, l'Organisation internationale d'observation de la Terre, réunissant 116 pays et 156 organisations gouvernementales dans les buts de mieux répondre aux défis majeurs tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, la sécurité alimentaire et bien d'autres.
Jean-Désiré Kanyama. Pendant ce temps, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme appellent la RDC à démontrer sa capacité à défendre les droits humains sur son territoire avant de donner l'exemple à l'échelle internationale. L'appel a été lancé à l'occasion de la commémoration le 10 décembre dernier du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce collectif dresse un tableau sombre des violations des libertés et des droits fondamentaux des citoyens, notamment des enlèvements, des arrestations et détentions arbitraires, des cas de torture physique et morale, la répression des manifestations pacifiques et tant d'autres abus. En réaction, la ministre des Droits humains, Chantal Chambou-Moivita, parle des mesures qu'elle a mises en place pour protéger les droits de l'homme. On l'écoute au micro de Kelly Stoning-Kouté.
Aujourd'hui, madame, je dois vous dire que nous sommes en train de redynamiser notre ministère et l'implanter partout sur l'étendue de la République pour avoir accès à des monitorings journaliers, afin de pouvoir avoir des informations à chaque fois qu'il y a une violation ou un abus commis quelque part. Nous travaillons avec les défenseurs des droits humains, nous travaillons aussi avec la communauté internationale, nos partenaires, et c'est comme ça que nous pouvons obtenir des informations. Et nous avons aussi sur terrain nos membres de cellules qui vont dans des, par exemple, dans les sites de déplacer. Nous faisons des enquêtes sociales pour voir dans les quartiers s'il y a l'eau, s'il y a l'électricité, s'il n'y a pas, pourquoi, et s'il y a un problème. Nous, notre rôle, c'est d'aller vers au sein du gouvernement pour défendre la cause des Congolais.
Dans la foulée, le député national Étienne Andrito appelle le gouvernement congolais à porter plainte à la Cour pénale internationale contre les seigneurs de guerre des Elera, Joseph Kony, pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans les Hauts et Bas-Uele. Dans sa motion d'information hier, ces députés plaident aussi pour le rapatriement rapide des réfugiés congolais qui avaient fui les exactions dans la brousse de la République centrafricaine. D'après lui, ces réfugiés se retrouvent dans les centres de transit en Ouganda grâce à l'implication diplomatique des ONG PAX et des Pays-Bas en attendant leur rapatriement dans leur territoire d'origine en RDC. L'élu de Faradji, Étienne Andrito, explique au micro de Michel Kifindangoy.
Vous savez, la LRA avait connu beaucoup d'exactions dans les Hauts et dans les Bas-Uele. Alors, à un moment donné, l'ONG en Pérou, avec PAX des Pays-Bas, ils ont fait une diplomatie avec la République centrafricaine pour qu'on puisse rapatrier nos compatriotes. C'était la République sud-soudanaise, l'Ouganda, la République centrafricaine ainsi que la RDC. Mais malheureusement, la RDC avait brillé par son absence. C'est ainsi que le gouvernement ougandais, par la courtoisie, a pu décider de rapatrier nos compatriotes, c'est-à-dire les Congolais qui se trouvaient dans la brousse. Le gouvernement congolais fait semblant comme si rien n'était, mais or, ce sont notre population qui sont en souffrance aujourd'hui au centre de transit de Goulou. Alors, c'est pourquoi nous demandons une mission rapide qui sera composée de députés des Hauts et des Bas-Uele pour faire le profilage de ces réfugiés, si je peux les appeler comme ça, afin qu'on puisse les rapatrier chacun dans son territoire natal.
Nous sommes en Ituri, dans le territoire de Mambasa. Le président de la société civile Force Vive dénonce le recrutement d'enfants par des miliciens Maïmaï dans les groupements Bangole et Bakaheku, chefferie de Babila Babombi. Dans une déclaration à Radio Kapi mercredi, Mungeni Imrani affirme que les groupes Maïmaï de Kabido et UPLC de Mayani recruteraient au moins 5 enfants par jour. Il alerte les autorités compétentes pour sauver l'avenir de ces enfants innocents. Mungeni Imrani le dit au téléphone de Sadiq Aboubakar.
La société civile Force Vive du territoire de Mambasa condamne le recrutement des enfants par les groupes armés Mai Mai de Kabido et IPLC de Mayani à l'est et au centre du groupement Bangole au niveau du village Sambango et aussi autres groupes dans le groupement Bakaiko avec le même leader. Selon la source locale, 4 à 5 enfants seront recrutés par jour par ces miliciens. Ce phénomène constitue déjà un danger pour la communauté qui pourrait encore endeuiller la population de cette coquerie et aussi freiner le système éducatif de ces enfants. Nous appelons la coalition FRDC et UPDF de mettre hors d'état de nuire ces miliciens et remettre ces enfants innocents dans leurs familles respectives afin de continuer avec l'éducation scolaire.
Le porte-parole de l'armée en Ituri promet de se prononcer à ce sujet dans les heures qui suivent. Par ailleurs, dans la province du Tanganyika, le maire de la ville de Kalemie interdit l'importation, la commercialisation et la consommation de boissons fortement alcoolisées. David Mukeba a annoncé cette décision mercredi au cours d'une communication à la presse. D'après lui, la consommation de ces boissons est à l'origine de la montée de la délinquance juvénile et de la criminalité dans la ville de Kalemie. Les propos de David Mukeba, maire de Kalemie, sont sélectionnés par Paul Munanga.
Il s'est fait remarquer que ces actes et de délinquance sont dues à plusieurs causes, parmi lesquelles la consommation par les jeunes de boissons fortement alcoolisées contenues dans des sachets, des bouteilles de moins de 30 centilitres qui coûtent très moins cher, entre 1000 et 2000 francs, ce qui conduit ces derniers à commettre les actes criminels sans peur ni pitié. Il vous souviendra que le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Industrie, dans son arrêté ministériel du 15 octobre 2009, avait pris la décision portant interdiction de conditionnement d'alcool, eau de vie et liqueur dans des sachets de bouteilles de moins de 30 centilitres. Cette mesure, qui demeure en vigueur jusqu'à aujourd'hui, a été renforcée récemment au niveau de notre province par l'arrêté provincial du 8 novembre 2023 portant interdiction d'importation d'alcool et liqueurs conditionnés dans les sachets bouteilles de moins de 30 centilitres.
Radio Kapi n'a pas pu joindre le commissaire provincial de la police du Tanganyika, Aimé Claude Wasongoloa. Il pourrait donner des explications sur l'accompagnement par la police de cette décision du maire de Kalemie. Santé à présent. Le 12 décembre de chaque année, c'est la journée internationale de couverture sanitaire universelle. En RDC, cette initiative du chef de l'État est déjà d'application dans certains hôpitaux. Qu'en est-il de certaines grandes structures médicales comme l'hôpital provincial de référence Jason Sindoué dans la ville de Lubumbashi? La réponse avec le docteur Foreman Mabala, directeur général de cet hôpital. Il est au micro de Jean Gandou.
Nous avons reçu des instructions du ministre national de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, qui nous a donné des orientations précises et nous avons commencé progressivement à la mise en place de cette couverture en attendant que les formalités puissent être faites en bonne et due forme parce qu'il y a des préalables. Nous devons digitaliser l'hôpital, nous devons avoir des intrants, raison pour laquelle nous sommes dans la phase de la formation et la remise à niveau et je crois que pour ces mois de janvier 2025, avec l'ouverture du grand bâtiment de l'hôpital Jason Sindoué, nous allons déjà mettre en place la couverture santé universelle et les femmes, les enfants seront prises en charge de façon optimale et dans de bonnes conditions. Il y a des interventions gratuites que nous faisons pour les indigents, des campagnes que nous avons fait pour les cas des hydrocéphalies ou bien des becs de lièvre et nous attendons juste la formalisation et les go qui nous sera donné dissipé par notre ministre national de la Santé et à ce moment-là, vous allez voir que l'hôpital Sindoué va refléter cette belle image qui est de la amélioration du système de santé de notre pays.
Dans le même chapitre, sachez qu'au Nord Kivu, une délégation du comité technique et stratégique de la couverture santé universelle séjourne à Goma depuis mercredi. Sa mission, telle qu'annoncée, est de procéder à la vulgarisation des principes fondamentaux de la couverture santé universelle ainsi que l'actualisation de la feuille de route provinciale de la mise en œuvre de ces projets du président de la République qui vise l'amélioration des conditions de vie de la population sur le plan sanitaire. Le point avec Chris Mukand.
Au cours de l'audience qu'il a accordée à la délégation, le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwa Minkoba, a indiqué que la province du Nord Kivu a déjà initié des actions en faveur de l'implémentation du programme. Entre autres, le projet d'arrêté provincial sur l'installation du comité provincial de la couverture santé universelle et un autre portant mobilisation des ressources en faveur du dit programme. La délégation va travailler durant une semaine dans la province du Nord Kivu pour préparer la mission de l'autorité de régulation de la couverture santé universelle attendue très prochainement pour l'accréditation des structures sanitaires, principalement les maternités, en vue de matérialiser le programme de la gratuité de la maternité. La couverture santé universelle n'est pas une option, plutôt une obligation, selon les directives du chef de l'État. Sa mise en œuvre devrait se faire progressivement jusqu'à atteindre toutes les couches de la population. Le prochain paquet devra concerner la prise en charge des militaires et policiers, y compris leurs dépendants, dans le cadre de la couverture santé universelle, rassure le conseiller au comité technique et stratégique de la couverture santé universelle. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Bénin, les 12 membres composant le collège des ministres et conseillers viennent d'être nommés par le chef de l'État parmi ses alliés politiques. Une façon de soutenir l'action gouvernementale pour le camp présidentiel. À un an et demi de la présidentielle, à laquelle Patrice Talon ne peut plus se présenter, l'opposition y voit aussi une manière de resserrer les rangs autour du président.
L'invité.
C'est Jean de Dieu Mbeyi Bosimi, coordonnateur du Programme national de développement agricole appuyé par la Banque mondiale, qui a mis en place le registre national des agriculteurs et l'opérationnalisation d'un système d'assurance agricole face aux risques récurrents. Ce projet de 300 millions de dollars est exécuté d'abord dans quatre provinces, à savoir le Kasaï central, le Congo central et la province du Kwilu. Il va permettre de stabiliser 3049 kilomètres de routes des dessertes agricoles des 12 territoires de ces provinces. Jean de Dieu Mbeyi Bosimi s'entretient avec Richard Junior Kamunga.
Monsieur Jean de Dieu Mbeyi Bosimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnateur national du programme national de développement agricole PNDA. C'est quoi PNDA et quel est son objectif?
Merci. Nous sommes un programme national de développement agricole. C'est un programme du gouvernement sous financement de la Banque mondiale avec un budget de plus ou moins 300 millions de dollars. Notre objectif est d'augmenter, accroître la productivité des petits exploitants agricoles et de leur faciliter l'accès au marché. Je voudrais juste expliquer, quand on parle de productivité, nous mettons un accent sur le sol et puis sur le matériel agricole, dans la semence. Et du côté de l'accès au marché, nous mettons un accent sur le désenclavement des bassins de production que nous avons préalablement identifiés.
Le chef de l'État qui soutient la revanche du sol sur les sous-sols, lors de son adresse à la nation du 11 décembre 2024, il a salué la mise en place du registre national des agriculteurs et l'opérationnalisation d'un système d'assurance agricole. Votre projet est exécuté dans quatre provinces de la République démocratique du Congo. Peut-on en savoir plus?
Nous saluons effectivement l'honneur que le président alloue au projet PNDA, mais aussi c'est une responsabilité. Le RNA, c'est le registre national des agriculteurs, c'est une innovation. Nous enregistrons les petits exploitants agricoles qui travaillent avec nous. C'est comme un médecin qui a une fiche du malade qu'il est en train de traiter. Nous notons tout ce que nous apportons comme incitation, comme paquet technique, comme solution aux problèmes des petits exploitants que nous rencontrons dans les différentes provinces dans lesquelles nous travaillons. C'est le registre des agriculteurs. Pour que quand nous arrivons à la fin du projet, le gouvernement sait qu'est-ce que nous avons fait sur chaque agriculteur qui est connu personnellement, individuellement.
Il se pose un problème sérieux des routes de dessert agricole en République démocratique du Congo. Avez-vous un volet pour trouver solution dans ces quatre provinces où vous exécutez votre projet?
Nous avons non seulement le désenclavement des bassins de production où nous avons pratiquement 3049 kilomètres à réaliser dans les quatre provinces. Nous disons 3 territoires par province sur x 4, ça vous fait 12 territoires. Les 3049 sont répartis comme suit. 854 kilomètres pour le Kwilu. À Gungu, nous avons 288 kilomètres à désenclaver. À Idiofa, 275 kilomètres à désenclaver. À Bulungu, 291 kilomètres à désenclaver. Nous avons échangé avec le ministre du Développement Rural pour voir l'interaction de nos activités. Il nous a orientés. Notre objectif, c'est relier les routes de dessert agricole vers les routes nationales ou vers les voies navigables. Au Congo central, nous avons 790 km, dont 250 à Lukula, 275 à Luozi et 265 à Sekebanze. Au Kasaï, nous avons 640 km, dont 232 à Luebo, 152 à Tikapa-Kamonia et 256 à Mweko. Au Kasaï central, nous avons 707 km, dont 260 km pour Dibaya, 201 km pour Demba et 246 pour Luisa.
Ces routes seront réhabilitées de quelle manière?
Il est vrai que nous devrions faire le cantonnage manuel. Aujourd'hui, avec notre climat, il ne résiste pas. C'est ainsi que pour le projet, nous avons adopté un système de cibler les points chauds que nous devons bétonner. Nous allons faire des bicouches au niveau des points chauds et le reste des routes, nous allons les stabiliser avec les latérites et avec des saignées que nous allons faire en dur.
Est-ce que votre projet se limitera seulement dans les quatre provinces de la RDC?
Le PNDA est un programme Donc c'est un programme de 3 phases, dont 5 ans par phase. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions atteindre les résultats escomptés de la première phase pour toucher les décideurs et influer sur la décision, que nous puissions aller à la phase suivante, c'est-à-dire à la deuxième phase où nous aurons à ajouter 7 provinces. C'est la province d'Ituri, la province du Sud Kivu, la province du Nord Kivu, la province du Tanganyika, du Haut-Katanga, la province du Kasaï Oriental, du Maniema, de Lomami. Quand nous aurons intégré ces provinces, à la dernière phase, nous allons prendre la province de Nord Ubangi et Tchopo et les autres provinces. Nous avons l'objectif d'atteindre plus ou moins 18 provinces sur les 26 que nous avons.
Monsieur Jean de Dieu Mbeye, merci.
Je vous remercie et nous sommes au service du gouvernement. Nous sommes en train de matérialiser la vision du chef de l'État.
Notre invité était avec Richard Junior Kamunga. 6h20 dans ses studios de Radio Kapi, la radio de la paix. Par ici s'achève ce journal, mis en onde par Mimi Kindou et coordonné par Jude Mystère Bilanda, sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe. Merci de l'avoir écouté et de les retrouver sur www.radiokapi.net.